Bonjour mesdames, messieurs, bonjour Diane.
Michel.
Bienvenue à l'émission Regards sur le monde sur Canal M. Nous invitons aujourd'hui Mme Sarah Rouleau, qui est responsable des communications, marketing, événements à la fondation de l'INCA. Et on reçoit également M. Doris Jade, qui est consultant en immigration. Regard sur le monde sur Canal M. Diane, nos invités d'aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs sujets et nous avons dans un premier temps au téléphone Mme Sarah Rouleau, qui est responsable des communications marketing et événements spéciaux à la Fondation INCA. Mme Rouleau, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de nous parler. On sait que vous êtes très, très occupée ces temps-ci avec tout ce qui se passe justement à l'INCA et on aura l'occasion d'en parler au cours des prochaines minutes. L'INCA, mieux connu sous le nom à l'époque, enfin, de l'Institut national canadien des aveugles, vous avez procédé à d'importants changements dernièrement et à la création de la Fondation INCA. Est-ce que vous pouvez nous parler de toutes ces belles nouveautés chez vous?
Bien oui, avec plaisir. En fait, aujourd'hui, là, vous l'avez dit, on est très occupés. On lance officiellement notre second siècle d'activité. Donc, on a fêté nos 100 ans cette année et on lance le second siècle. Nouveau nom, nouveau site web, on lance aussi notre nouveau local, des nouveaux programmes aussi très excitants qui s'en viennent. En fait, pour commencer ce nouveau siècle-là, on a on est très ambitieux. On veut éliminer les barrières qui restent encore pour les personnes aveugles. Et dans les trois là, ambitions qu'on s'est données pour les prochaines années, il y a exploiter le pouvoir de la technologie. Donc, on va présenter un nouveau programme à ce sujet ce soir qui s'appelle « Rendre l'appareil ». Le but, c'est de mettre là, dans les mains des personnes aveugles des téléphones cellulaires parce que ça leur permet d'être le plus autonome possible. On a aussi là, augmenté la participation au monde du travail. On sait que ça reste encore une barrière qui demeure. Hein? Seulement un tiers des personnes aveugles qui sont aptes à travailler sont en emploi. Donc, on a un nouveau programme de carrière et emploi. On va remettre des bourses ce soir. Et une autre ambition qu'on a, c'est de promouvoir la réussite et l'égalité. Et notre nouveau local qu'on appelle le Hub, c'est un peu le premier pas vers ça pour aussi rendre notre quartier le plus accessible possible.
Vous avez parlé de carrière et emploi, un nouveau service. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, en fait, il y a plusieurs volets. Pour commencer, on débute dans la région de Montréal en français. Il va y avoir des ateliers. Donc, on veut permettre aux personnes aveugles de bien présenter leur perte de vision, de bien présenter leurs compétences pour défaire les préjugés des employeurs, qui est la principale barrière. Donc, il y a des ateliers sous forme, mettons, une session dans laquelle on aborde plusieurs sujets. Il y a aussi des causeries. Donc, les gens peuvent se rencontrer, se donner des trucs, des conseils par rapport à leur recherche d'emploi. Ensuite, il va y avoir aussi, on va essayer de leur offrir des stages, des opportunités, des occasions de travail. On essaie de développer des partenariats, de sensibiliser là, les employeurs. Ils risquent d'avoir du mentorat aussi. Donc, on le débute tranquillement, mais on a beaucoup d'ambition, disons.
Vous avez aussi parlé du projet Hub ou du comité Hub. Qu'est-ce que c'est ce comité exactement?
Oui, en fait, le Hub, c'est notre nouveau local et on voulait qu'il soit le plus inclusif possible et que les gens se sentent chez eux. Donc, on voulait que nos bénévoles, notre clientèle, tout le monde qui veut s'impliquer pour la cause ou qui se sent interpellé par INCA puissent être les bienvenus à INCA, donc dans notre nouveau local. Et là, on a décidé de créer un comité pour que les gens puissent organiser eux-mêmes les activités. Donc, les activités qu'ils ont besoin, qu'ils souhaitent avoir dans notre hub. On a une super cuisine, une grande salle de conférence qui est malléable, qui peut se transformer en salle pour faire de l'autodéfense, l'improvisation. Il y a plusieurs opportunités possibles. Mais le comité va vraiment permettre que les gens puissent faire là, ce qu'ils désirent. Nous, on a commencé déjà là, à organiser quelques activités, mais on favorise le fait que ça soit fait par les personnes elles-mêmes, selon ce qu'elles ont le goût, si elles ont le goût de faire un potluck, une soirée de jam, peu importe. Là.
Madame Rouleau, vous en parlez avec tellement d'enthousiasme. Ça peut représenter combien de bénévoles votre organisation?
Hey, on en a des centaines, je dirais. J'ai pas le chiffre exact. Je sais que seulement à l'enregistrement des livres audio, on en a une soixantaine qui viennent toutes les semaines pour enregistrer les livres audio. sinon, nous, ben, c'est plus lors d'événements spéciaux. Donc, des fois, on a une vingtaine, trentaine de bénévoles quand on a des événements spéciaux. Puis, on a aussi beaucoup d'animateurs, de groupes d'entraide qui vivent eux-mêmes avec une perte de vision et qui à chaque semaine, là, offrent des groupes de soutien. Donc, ça, je dirais qu'il y en a peut-être entre 10 et 20. On a les membres du CA. Puis, il y a beaucoup de nos bénévoles qui vivent avec une perte de vision. Donc, on en est très fiers.
Qu'est-ce que ça veut dire, HUB? Parce que j'ai vu sur votre site Internet, ça s'appelle HUB. Pourquoi?
Oui.
Pourquoi
oui.
ce mot?
En fait, le HUB, ça vient d'un mot anglophone, mais qui commence de plus en plus à être in en français. Donc, un HUB, c'est comme une plaque tournante, c'est un peu une partie d'un engrenage ou un pivot. Puis, on voulait un peu être là, ce pivot-là, la plaque tournante là, pour toutes les personnes qui désirent soit s'impliquer ou les qui souhaitaient là, s'impliquer pour la cause, je dirais. Donc, on voulait vraiment être un centre de référence, là, que les gens viennent, puis un port d'attache un peu, là.
On sent énormément de renouveau et de dynamisme à l'INCA maintenant avec l'élément de... Qu'est-ce qui a déclenché tout ça finalement?
Bien, en fait, tu sais, on est très fiers de notre histoire. On a fêté nos 100 ans, mais en même temps, on faut se renouveler. C'est un nouveau siècle. Il y a encore d'autres barrières qui restent. On voulait changer de ton. C'est des nouveaux... des nouvelles priorités. Donc oui, je dirais que c'est le nouveau siècle là, qui nous incite à revoir, bien pas revoir nos priorités, mais il y a des belles choses qu'on a réussi à faire. On a gagné de belles batailles. Si je pense dans le reste du Canada, la réadaptation est de plus en plus financée par le gouvernement. Donc on peut aussi se concentrer là, sur les autres services qui est plus du côté améliorer la qualité de vie des personnes aveugles, qui est un peu plus hop la vie, je dirais. Donc, c'est un peu l'image aussi là, de notre nouvelle fondation INCA. Ça permet aussi le mot fondation le permet de rappeler aux gens qu'on est 100% dépendant des dons, qu'on n'est pas financé par le gouvernement. Et le côté jaune de notre nouveau logo, le hub, tout ça est vraiment côté un peu hop la vie, je dirais, puis montrer, célébrer les capacités des personnes aveugles. On est plus affirmatif aussi. Tu sais, les barrières qui restent, bien, on veut qu'ils tombent.
En fait, je vous suggère un slogan. Plutôt que de dire hop la vie, vous pourriez dire hub la vie.
Oui, ça serait bon.
La moyenne d'âge des gens qui sont dans votre entourage, on parle de quoi? Parce que là, on sent un vent de renouveau, de jeunesse.
Oui.
Est-ce que la clientèle, la clientèle rajeunit? Voyez ça comment?
Non, ben en fait, c'est sûr que la majorité des personnes qui vivent avec une perte de vision sont des personnes aînées. T'sais, on sait qu'en vieillissant, il y a plus de maladies oculaires et tout. Par contre, on voulait pas oublier les jeunes. On avait quelques programmes pour les jeunes, mais on en a de plus en plus. On voulait pouvoir vraiment les accompagner à toutes les étapes de leur vie. Puis, entre autres, là, par exemple, en emploi, le fait d'avoir un emploi, ça change beaucoup de choses. Donc, on voulait rejoindre là, cette clientèle-là qui sont en âge de travailler, qui sont, oui, plus jeunes. Mais on dessert encore... tous les âges, puis la majorité, oui, ce sont des personnes aînées.
Madame Rouleau, on vous garde avec nous quelques minutes, on donne une pause musicale et on est de retour avec vous tout de suite après notre émission Regards sur le monde.
Parfait.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie, en fait, un soir on est mariés. Aïe, 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 aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, mieux peu comme papa.
De retour à notre émission Regard sur le monde, nous sommes toujours en compagnie de Mme Sarah Rouleau, qui est responsable des communications, marketing et événements spéciaux à la Fondation INCA.
Madame Rouleau, vous parlez d'un nouveau siècle, en fait le début d'un temps nouveau, mais c'est quand même pas rien une association qui existe depuis 100 ans. En fait, quelle est l'origine de l'INCA et quel est le secret pour être centenaire?
Oui, le secret. En fait, l'origine, puis ce qui est bien, parce qu'on n'est pas, oui, on évolue, mais dès le début, les intentions étaient quand même les mêmes. C'est des fondateurs qui vivaient avec une perte de vision qui ont fondé INCA. Puis dès le début, leur but était de miser sur l'autonomie des personnes aveugles, les encourager à être le plus autonome possible pour s'épanouir. Fait que ça, on est encore là-dedans, donc on en est très fiers. Et c'était surtout là dans le temps de la guerre, il y a eu aussi l'explosion à Halifax où il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont perdu la vision et il y en a certains qui ont été dans des centres de réadaptation dans d'autres pays qui misaient justement sur l'autonomie puis ont voulu ramener un peu là, cette idée-là au Canada. Puis il y avait des besoins grandissants là, avec le nombre grandissant de personnes qui vivaient avec une perte de vision. Donc, ils ont commencé petit à petit, surtout d'abord avec la bibliothèque. Donc, ça a commencé avec les livres en braille, éventuellement qui sont devenus les livres audio. Puis c'est rajouté bon de la réadaptation et de plus en plus là de services. On a cessé d'évoluer, mais je pense que peut-être le secret, je sais pas là, j'étais pas là pendant les 100 dernières années.
Oui, j'espère que vous n'êtes pas là depuis 100 ans.
Mais je sais qu'en ce moment c'est le cas, puis probablement que ça l'était aussi depuis tout ce temps-là, c'est de vraiment essayer de miser sur les besoins, tu sais comme. De voir c'est quoi les besoins des gens, puis qu'est-ce qu'on doit faire. Tu sais, on parlait tantôt du prochain siècle, comment ça a commencé, tout ce renouveau-là, ce changement-là. Bien, ça a commencé avec une consultation aussi, tu sais, de voir quels étaient les besoins de notre clientèle, qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient profiter de la vie comme tout le monde. C'est un peu pour ça aussi qu'on est très positif, qu'on est très dans cette lignée-là, parce qu'on s'aligne aux besoins de la clientèle. Probablement que c'est ça qui a été fait aussi là, depuis toutes ces années, puis que c'est le secret là, de notre longévité. Puis c'est vrai qu'on est on est très chanceux parce qu'on fait partie des plus anciens organismes au Canada. Là. Donc, on en est très fiers.
Vous œuvrez sur le plan international. C'est quoi les interventions que vous réalisez?
Hein, là, je pourrais pas. Je sais que c'est assez nouveau. Je sais entre autres que quand il y a eu le lancement là, de l'orbite braille, puis il y a eu des problèmes, par exemple, dans la livraison là, avec le fournisseur. Mais je sais qu'il y a eu ça à l'international. Puis je crois que c'est là que ça a débuté, le désir d'aider. Tu sais, si on peut aider ailleurs, pourquoi pas? On a de la technologie ici. On est un gros organisme. On est bien établi au Canada. Donc je sais qu'entre autres pour la littératie braille. On aide. Après les détails, je ne sais pas, ça se passe moi au Québec. Je suis désolée, il faudrait que je m'informe pour la prochaine fois que je viendrai.
On vous réinvitera alors. Vous avez justement dans les... On est dans le centenaire. Vous avez parlé de quelques activités, mais est-ce que vous allez souligner ça de façon spéciale tout au long de l'année?
Bien, en fait, on a célébré au mois de mai vraiment le centième anniversaire. On a remis plusieurs médailles à des gens qui avaient été visionnaires, qui nous avaient aidés, supportés. Donc, on a fêté au mois de mai. On a déjà, ça se continue, mais là, on est plus dans le nouveau, dans le second siècle. On a fait des belles annonces cet été, justement, le nouveau programme jeunesse, nouveau programme carrière et emploi. Ce soir, le nouveau programme rendre l'appareil pour les téléphones cellulaires. Là, maintenant, on a notre nouveau site web. Donc là, maintenant, ça va être plus justement de continuer dans cette belle lancée-là. Il y aura probablement des nouveautés aussi, mais moins des célébrations, je dirais. Là, on est plus dans les services pour la clientèle puis de réaliser ces ambitions-là qu'on a nommées tout à l'heure, là.
Quels sont les grands défis de la Fondation INCA pour les années à venir, Madame Rouleau?
Parce que c'est un changement pour vous. Vous avez toujours fonctionné avec des dons, bien entendu, mais le fait maintenant que vous vous affichez comme une fondation, ça amène son lot de défis.
Je pense pas. surtout au Québec, les changements sont moins gros parce que nous, on offrait déjà ce genre de service-là. Oui, on s'affiche en tant que fondation. Je pense que les gens vont peut-être plus comprendre. Justement, souvent, ils nous mélangent avec des centres de réadaptation. Puis on peut comprendre, vu que dans le reste du Canada, c'est ce qu'on fait. Donc, je crois que ça va peut-être être justement plus facile de savoir ce qu'on fait. C'est sûr qu'une fondation, des fois, les gens ne savent pas qu'on fait des services, qu'on offre des services, mais on essaie de le rendre le plus clair possible, tu sais, de montrer justement sur notre site web, là, il y a les catégories vivre, travailler, apprendre, pour montrer qu'on offre des services. Fait que je pense que dès qu'on parle de ce qu'on fait ou qu'on va voir l'information qu'on diffuse, c'est assez clair qu'on ne fait pas que collecter des dons, qu'on offre bel et bien là, des services aux personnes qui en ont besoin. Mais des défis, non, je pense plus que c'est de réaliser nos ambitions, justement, là, parce qu'on s'est mis des très grosses ambitions, tu sais, d'exploiter la technologie, de défoncer les barrières en emploi et tout. On a visé haut, donc ça va être d'essayer là, de réussir. Bien, on veut réussir, mais de faire tout ce qu'on peut, en tout cas, là, parce que c'est sûr qu'on va avoir un impact, mais d'avoir le plus gros impact qu'on peut avoir.
Alors, si on veut rejoindre la Fondation INCA, comment on peut procéder?
Oui, vous pouvez aller sur notre site internet inca.ca. On a une page Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler au 1-800-465-4622. J'ai mes collègues ici qui vont voir tout ce qu'elles peuvent faire pour vous aider, vous donner des ressources, vous informer de nos services ici. Donc, c'est vraiment les meilleures façons. Puis, nouvellement, le site internet de notre nouveau programme rendre-l'appareil.ca, Phone It Forward en anglais. Et vous allez découvrir toutes nos nouveautés. Puis aussi, c'est ça, notre nouvelle identité visuelle qui est jaune et noire, là, très, très contrastée.
Alors, je comprends qu'une personne qui est non-voyante et qui veut bénéficier de vos services n'a pas besoin de passer par une référence. Elle peut vous contacter directement.
Oui, 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 oui. Puis les gens, des fois, pensent qu'il faut être légalement aveugle pour participer à INCA, mais non, n'importe qui vit avec une perte de vision, qui en ressent le besoin, peut nous contacter. Il n'y a que la carte d'identité INCA là, qui a besoin d'être légalement aveugle, mais sinon, oui, ils peuvent venir cogner à notre porte, nous téléphoner. Puis nous, si c'est pas ici, probablement qu'on aura des services qui peuvent l'aider, mais si c'est pas ici, ça va nous faire plaisir on a une grande banque de ressources puis de voir qu'est-ce qui est le mieux pour eux à écouter ses besoins et tout.
Alors
pour les proches aussi.
Ah, c'était exactement la question qui s'en venait. Je me disais, si quelqu'un vit avec une personne qui perd la vue et qui a besoin de conseils, vous êtes là aussi.
Oui, oui, exactement, c'est ça.
Alors, on répète le site Internet et le numéro de téléphone, Mme Rouleau?
Oui, inca.ca. Et le 1-800-465-4622. Je rappelle qu'on offre des services à travers le Québec. On offre beaucoup de choses à distance. Donc, la majorité sont gratuits, puis à travers la province.
Madame Sarah Rouleau, responsable des communications, marketing et événements spéciaux à la Fondation INCA. Et vous êtes une excellente ambassadrice.
Merci
infiniment de votre temps. Au
Merci.
Plaisir.
Merci, au plaisir.
Au revoir. Alors, on y va maintenant avec notre bloc actualité. On poursuit, Diane, notre émission. On est un petit peu... Madame Rouleau nous communique beaucoup d'énergie dans le cadre de la Fondation INCA. Alors, parmi nos petites actualités, eh bien, imaginez-vous donc que les Rice Krispies Treats sont des collations individuelles dont l'emballage comprend un grand cœur blanc sur lequel des messages spéciaux peuvent être écrits pour et par les enfants. La marque Kellogg propose désormais une version destinée aux enfants aveugles ou ayant une déficience visuelle afin de pouvoir lire en braille ou écouter des messages préenregistrés. Ces Love Notes, qu'on appelle spéciales, ont été créés en partenariat avec la Fédération nationale des aveugles aux États-Unis pour la prochaine rentrée scolaire et grâce à l'option de messages audio réenregistrables, les parents peuvent partager un message de 10 secondes sur la collation de leur enfant.
Wow.
Alors, ça, j'ai des nouvelles des fois qui sont, hein, c'est un petit
des
peu particulier.
Des nouvelles soleil.
Oui. Maintenant, pour les amateurs de technologie, alors si vous avez des difficultés à utiliser les fonctions d'accessibilité de vos appareils fonctionnant sous iOS ou sur votre Mac, eh bien, Apple met à votre disposition une ligne téléphonique où vous pouvez obtenir de l'aide. En appelant au 1-877-204-3930, vous pourrez parler à un employé qui vous guidera et vous expliquera comment résoudre le problème auquel vous êtes confronté. À l'heure actuelle, les communications se déroulent seulement en anglais, cependant. Alors, c'est le 1-877-204-3930 pour ceux qui ont des petits problèmes avec leur Apple. Nos yeux seront décortiqués grâce à l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a des scientifiques montréalais qui travaillent à la création d'un outil qui permettra d'analyser avec précision la santé de l'œil sans la présence d'un médecin grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas encore changé la médecine, mais elle a clairement le potentiel de le faire, a précisé le docteur San Diego Constantino, qui est chercheur au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On sait qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, il y a un très gros département d'ophtalmologie. L'intelligence artificielle est une technologie qui consiste à enseigner aux machines à apprendre et à prendre des décisions. Alors, en ophtalmologie, l'outil que développe le docteur Constantino pourrait permettre de faire des analyses de l'œil à distance, en région, ou en clinique d'optométrie, même quand un médecin n'est pas disponible. Alors, c'est fait en collaboration avec Farida Chériette de Polytechnique Montréal et de Marie-Claude Boucher de l'Université de Montréal. Le scientifique constitue une base de données pancanadienne qui regroupera des millions d'images pour les yeux. L'outil que le développe le docteur Constantino pourrait servir au dépistage de nombreuses maladies oculaires qui peuvent rendre aveugles, comme le glaucome, par exemple. Son équipe bénéficie du soutien de Diabète Action Canada qui souhaite créer un programme national d'ophtalmologie à distance afin de lutter contre la rétinopathie diabétique, une grave complication du diabète qui peut rendre aveugle. Et dans d'autres petites informations, eh bien, je ne vous apprends rien, ma chère Diane, que on savait déjà que la vue d'un sourire sur un visage transmet des émotions positives, mais qu'en est-il lorsqu'on entend une voix qui sourit? Alors, il y a une équipe de chercheurs qui s'est penchée sur la question en évaluant les réactions de volontaires lors de l'écoute de messages envoyant un signal acoustique propre au sourire. Résultat, l'effet sourire se transmet aussi par la voix. Alors, c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais là, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est formidable. Quelques autres informations en regard, entre autres, de la Fondation de l'Institut Nazareth et Louis Braille, la Fondation en vue. M. Jean Reeves, président du conseil d'administration, a annoncé récemment la nomination de Mme Isabelle Piché à titre de directrice générale de la Fondation en vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Elle a une très grande expérience en stratégie de développement, coordination et communication du milieu philanthropique. Alors, Mme Piché entre en fonction le 1er octobre prochain. Elle est entrée en fonction le 1er octobre prochain. Dernier, j'ai de la misère, ça va bien. Et elle était auparavant chez Suicide Action. Et au niveau encore de la fondation de l'INLB, de l'Institut, un nouveau membre du conseil d'administration, M. Dorijade, que nous aurons en entrevue tout à l'heure, mais sur un tout autre sujet.
Je cherche des restes de toi dans la chambre froide et dans le piano droit. Je cherche l'écho d'une voix qui disait aime-moi. Je cherche des restes de toi.
cacher des morceaux de moi au fond de tes bras, dans ta grande sacoche. J'ai caché des mots maladroits sous la soie de ta peau. J'ai caché des morceaux de moi. Et je me parle tout seul quand je m'ennuie de ma California girl. Ma California girl. J'ai trouvé des éclats de joie sous le sofa et dans les plis de l'endroit. J'ai trouvé des traces de pas dans la neige à la télé. J'ai trouvé des éclats de joie. Je me saoule la gueule quand je m'ennuie de ma California girl. Ma California girl.
Canal M, l'information pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de monsieur. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Alors, c'est une magnifique version, Diane, de « Et maintenant ».
Oui, un boléro.
Boléro, voilà. L'émission de retour à Regards sur le monde. Et nous avons en entrevue aujourd'hui quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, M. Dorijab, qui est président et directeur général de l'Association des consultants en immigration du Canada. Bonjour, Dori.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va bien. Merci de prendre le temps de cette entrevue qui est très importante. On va toucher plusieurs sujets, mais je vais laisser Diane aller à la première question.
Oui, Monsieur Jade, bonjour.
Oui, bonjour,
oui,
Diane.
Oui, vous avez perdu la vue à la suite d'une maladie. Vous pouvez nous raconter un peu votre histoire?
Moi, j'ai eu une maladie, c'est une maladie génétique innée, mais difficile à découvrir avant l'âge de 20 ou 30 ans. Et une fois qu'elle a été découverte à la fin de la trentaine, c'était déjà trop tard. Mais dans tous les cas, il n'y a rien à faire, sauf que tu pouvais juste être plus prête comme personne à subir des conséquences. Et maintenant, je continue ma carrière, je continue ma vie étant légalement aveugle ou à basse vision.
Ça s'est passé sur combien de temps, votre perte de vue, environ?
C'est un bon 7-8 ans. Et maintenant, ça continue jusqu'à la cécité totale. C'est ça qui est prévu.
Comment on vit avec cette situation? Vous avez quand même un emploi. Vous êtes président, directeur général de l'Association des consultants en immigration. On aura l'occasion d'en reparler. Mais comment on vit avec une situation qui se dégrade finalement en bout de ligne?
C'est une situation difficile. Chacun la vit de sa façon. Certains que probablement j'ai eu... une chance d'avoir du monde autour de moi pour m'aider, certains. J'ai aussi une famille et les conséquences sont pas mal drastiques. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu des maladies similaires, soit perte de vue en particulier ou d'autres, mais qui n'ont pas pu probablement soulever ce défi. Mais c'est un défi à soulever. On n'a pas d'autre choix.
Qu'est-ce qui a fait la différence, vous croyez? Parce que quand on a une nouvelle comme celle-là, j'imagine que certains jours, on déprime un peu plus que d'autres. Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou des choses qui ont fait que, justement, vous avez repris votre l'espoir, la vie devant vous, là, vous l'avez affronté? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs ou des éléments particuliers qui ont fait une différence?
Moi, je pense que c'est mes enfants, c'est tout. Parce que je voulais pas qu'ils vivent avec un père handicapé qui est pas capable de subvenir à leurs besoins. C'est des jeunes encore 12 et vraiment 5 ans. Alors, je me suis dit, pour ces enfants, on va foncer. J'ai des compétences aussi. Il faut comprendre que la société était très réceptive autour de moi. Et j'ai déposé des candidatures, puis on m'a vraiment évalué sur mes compétences et non sur mon handicap. Et souvent, c'est nous, les handicapés, qui aussi, je ne dis pas que la société n'a pas de préjugés, puis qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire, mais nous aussi, on doit se dire que oui, on est handicapé, mais mettons l'handicap un peu de côté. Qu'est-ce qu'on sait autre qu'on pourrait... emmener à la table je l'appelle la table de négociation, parce que souvent, quand tu vas faire une entrevue, c'est pas juste un côté, c'est les deux côtés. Il y a un qui va mettre ses compétences et l'autre qui va les considérer.
Alors maintenant, vous travaillez à l'Association des consultants en immigration du Canada. Avant votre cécité, ou du moins avant votre maladie, est-ce que vous faisiez un peu la même chose ou ça a aussi chamboulé votre vie professionnelle?
Non, avant, j'étais consultant à mon compte. J'avais mon entreprise, mais ce n'est plus possible avec être entrepreneur. Ben, il y en a qui le sont. Je connais des cas qui sont entrepreneurs, oui. Mais pour moi, c'était plus possible. Parce que c'est une question, quand vous êtes consultant, il y a beaucoup de travail administratif à faire. Puis ça, c'est plus mes compétences quand j'ai perdu ma vue. C'est vraiment plus ma compétence. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes compétences, puis je les ai mis où j'ai trouvé que ça pouvait servir le mieux. Et avec plusieurs entrevues, j'ai finalement décroché un emploi.
Justement, quel est le rôle de votre organisation, le rôle de l'Association des consultants en immigration du Canada?
L'association, en tant que telle, représente plus de 2000 membres. C'est en très grande majorité des consultants en immigration qui sont réglementés par le gouvernement du Canada. C'est il y en a 5000 consultants en immigration réglementés. C'est des personnes dont leur travail est de représenter les clients en immigration. Et souvent, on relie l'immigration, par exemple, juste aux réfugiés ou juste à une certaine catégorie. Mais l'immigration au Canada et au Québec, c'est beaucoup plus que ça. Ça va de l'employeur qui cherche dans une pénurie de main-d'œuvre à l'employé qui, lui, peut être un étranger. Ça va aussi aux programmes gouvernementaux pour essayer de recruter les élites de ce monde pour venir travailler chez nous. Ça va aussi aux municipalités. Récemment, dans les dernières années, il y a une délégation de l'immigration au Québec et ailleurs dans les autres provinces, aux villes. La ville de Saguenay est une des villes les plus connues ici au Québec qui embarque dans ça. La ville de Montréal, récemment, on a entendu la mairesse dire c'est impossible, si vous baissez l'immigration, je vais avoir des problèmes économiques sur mon territoire. Donc, ça va vraiment de plusieurs points de vue, incluant des investisseurs, des entrepreneurs, des achats d'entreprises, de personnes qui vont à la retraite, ainsi que ce que vous souvent entendez parler dans les radios ou dans les médias. Les réfugiés qui, eux aussi, ont bâti ce pays et ne sont pas illégaux comme on nous fait croire. C'est plus, présentement, ce qu'on voit, c'est un peu irrégulier au Canada. Parce qu'on n'a pas vu ça avant. C'est juste ça.
Donc, vous jouez un rôle majeur et de plus en plus important.
Souvent, ils ont toujours été... les pionniers, les consultants en immigration. Par contre, dans les 13, 14 dernières années ou 15 dernières années, ce qui est bon, c'est qu'ils sont devenus réglementés. Le fait de réglementer une profession, ça donne des balises à la pratique. Et ça, c'est très important.
Alors, on va poursuivre notre entretien, Dory, dans quelques minutes. On va faire une pause musicale et je vous ai choisi à vous, parce que moi, je vous connais, une chanson qui, je trouve, vous va comme un gant, vous va à merveille. C'est la chanson de Christophe Maé, « Il est où le bonheur ?» Et on vous l'a dédié et on est de retour avec vous tout de suite après.
Merci.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est là, il est là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Sur Canal M, oui, le bonheur, il est là. Sur Canal M, regard sur le monde, et c'est vraiment très significatif, surtout avec notre invité. Alors, Dory, on vous a dédié cette chanson. Je trouvais qu'elle vous allait très, très bien.
Merci. Alors,
on revient maintenant sur votre rôle un peu plus sérieux. Donc, vous, votre rôle de consultant, en fait, en immigration, ça peut certainement faciliter les choses en début des démarches de parrainage. Mais avant, j'ai une question. Est-ce que le parrainage est obligatoire en immigration ou non?
En fait, c'est un programme qui existe. Et vu que les gouvernements et le Canada, ainsi que le Québec, ont des valeurs de famille et de réunir les familles. Le programme de parrainage existe dans la loi depuis l'existence de la loi d'immigration, depuis 1876, depuis la Constitution.
OK.
Donc, le parrainage est une catégorie de l'immigration. Ce n'est pas nécessaire pour toutes les catégories, mais oui, il existe depuis très longtemps.
Et comment votre rôle de consultant en immigration peut faciliter les choses dans ce cas?
Souvent, dans les cas de parrainage, c'est un des secteurs les plus représentés. Parce que souvent, il y a un couple qui veut, par exemple, immigrer au Canada, dont un des partenaires est soit un citoyen canadien ou un résident permanent et qui voulait faire venir sa douce moitié au Canada. Alors, souvent, on pense que ça devrait être quelque chose de simple et les gens entament des démarches. Ils lisent un peu sur le site web. On regarde les détails, on a besoin de documents. On met ça tout ensemble, puis on le dépose comme demande. Par contre, on oublie qu'il faut certainement avoir beaucoup plus que ces documents. Il faut avoir des preuves de la relation qui sont authentiques. Il faut s'assurer que la demande a un sens dans le contexte de la relation et ne pas oublier que les agents, sous la loi, ont un pouvoir discrétionnaire de refuser en principe. Et c'est pour ça qu'un consultant en immigration va faire vraiment en sorte que ces points-là sont bien identifiés avant de déposer une demande.
Justement.
Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas une option de mettre à jour leur demande. Demande déposée, c'est juste ça.
Justement, Dory, à ce propos-là, il y a quelques mois, les médias ont fait état de demandes de parrainage d'un conjoint, d'une conjointe, et dont justement les fonctionnaires fédéraux ont bloqué l'entrée au pays pour des raisons de risque de rupture quand la personne arrivait au pays. J'imagine que vous entendez souvent ce genre d'histoires qui peuvent tourner au cauchemar pour des gens.
Effectivement, puis juste pour ne pas parler d'un cas en particulier, mais la question de rupture, c'est plus une question que l'agent n'est pas convaincu que le couple est un couple solide ou est un couple dont la relation est authentique. C'est ça le point important dans toute demande de parrainage familial. Alors, ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'ils ont juste une chance de déposer une demande. Ils ne seront pas vraiment demandés « Ah, donnez-nous plus de preuves » ou ce n'est pas un dialogue. C'est juste, vous déposez une demande, la demande va être évaluée, une réponse va sortir, un peu comme dans les cours, comme dans tout le système légal au Québec et au Canada. Alors, pour cela, si une demande est refusée, vous avez deux options. La première, c'est de déposer une autre demande, mais à ce moment-là, c'est très conseillé de voir un consultant en immigration. La deuxième, c'est d'aller devant le tribunal, qui est le CISR, qui est responsable de regarder les erreurs, s'il y en a, faites par les fonctionnaires de l'État.
Ça ne doit pas être tellement évident de faire la preuve, que vous avez des doutes sur la solidité du... Il y a une zone, c'est une zone grise.
Ben, effectivement, le fardeau de la preuve relève du candidat et non de l'agent. C'est pour ça que le risque de refus qui existe n'a pas besoin d'autant de preuves vis-à-vis l'agent. Le fardeau de la preuve est sur la personne qui demande le statut.
Donc, vous, parce que vous avez de l'expérience en immigration, j'imagine que vous connaissez bien également les obstacles que les gens peuvent rencontrer, mais aussi vous connaissez le vocabulaire, vous connaissez les aspects administratifs, vous connaissez le contexte des agents, les contextes décisionnels, aussi tout ce qui est discrétionnaire, ce qui ne l'est pas. Donc, j'imagine que vous pouvez bien les guider dans ce sens-là.
Absolument. Moi, je veux juste aussi clarifier. Moi, personnellement, je ne pratique pas présentement. Par contre, j'ai toujours ma licence, certain, mais c'est nos membres qui ont toute cette expertise. Et ce que je voudrais amener, c'est que nos membres ont aussi des formations continues. Donc, ils sont toujours au courant de tous les changements, des façons de faire, de l'expérience d'autres membres qui ont eu le même cas ou des cas similaires, des expériences de membres qui ont plus d'expérience dans une certaine catégorie d'immigration que d'autres.
Alors, il nous reste à peine 2 minutes, Diane, Dory. Est-ce que c'est important qu'on parle de la responsabilité? Si vous parrainez quelqu'un, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Quelle est cette responsabilité que moi j'ai comme parrain si je veux parrainer une personne?
Oui, les responsabilités sont énuméré dans le contrat que vous signez avec le gouvernement ou au fédéral ou au provincial, comme par exemple au Québec. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens signent ces documents-là sans regarder toutes les clauses, en pensant que, OK, l'autre partie, c'est mon partenaire de vie, c'est mon épouse, mon époux, mon conjoint de fait, ainsi de suite. Alors, ils signent sans vraiment regarder les détails. Mais il faut savoir que vous êtes responsable de tout ce qui est relié à, au soutien de l'autre personne jusqu'à 3 ans. Continu. Donc, rester chez vous ou avec vous, s'occuper de la personne financièrement. S'il ne trouve pas un emploi, vous êtes responsable. Donc, vous êtes responsable, vous parrainez quelqu'un. Ces 3 ans, c'est vraiment une entente que vous faites avec le gouvernement. Vous ne pouvez pas sortir de ça. Même si après 1 an, vous décidez de se séparer pour une raison ou une autre, vous restez responsable jusqu'à concurrence des 3 ans.
Dori Jade, président et directeur général de l'Association des consultants en immigration du Canada, merci infiniment d'être venu à un entretien. On a appris beaucoup,
c'était
beaucoup de
très,
choses.
C'était très, très éclairant. Vous êtes un excellent communicateur, M. Jade.
Merci, Diane. Merci, Michel. Je vous souhaite bonne chance avec votre programme. Merci de m'avoir invité.
Merci, Dori. Longue vie. À bientôt. Au revoir.
Merci à toi aussi. Au revoir.
Diane, comme on parlait d'immigration, j'ai pensé qu'Imagine de John Lennon était quelque chose de très bien.
Oh, très concept. Hein?
On était très concept. Oui. Voilà, c'était Regard sur le monde, notre édition. On vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, la semaine prochaine. D'ici là, demeurez à l'écoute de Canal M.